Histoire. La parole de Dieu. Issue de Data Trails.
Le cœur de Lurker martela sa poitrine. Il s'accroupit dans un massif de varech qui reposait sur le fond de l'océan et tira un coup sec sur la chaîne qui le liait au serveur de ses doigts tremblants. Il savait que les contre-mesures d'intrusion n'étaient pas bien loin, mais il ne parvenait pas à les apercevoir. L'indicateur de pression de sa combinaison de plongée vira au rouge, signe que Dieu, département d'inspection de l'électronique ubiquitaire, avait connaissance de l'endroit où il se trouvait. Il devrait avoir été éjecté du serveur et pissé le sang à cause des dommages de biofeedback. Il devrait être engagé dans un duel à mort avec la CI. Au lieu de cela, il se planquait, planté au fond de l'océan, écrasé par sa phobie de l'eau. C'était un travail qui devait rouler tout seul. Qu'est-ce qui avait tourné de travers ? La réalité à l'intérieur du van se rétrécit et disparut au moment où jaillirent les lignes pures, précises et vives de la réalité virtuelle qui entourèrent les hackers. Le serveur, un énorme yacht, était porté par des flots invisibles juste sous leurs yeux. L'estampille sur la coque était ornée du logo de la corpo à laquelle il manquerait bientôt un fichier, si on partait du principe que tout se déroulerait bien. Le rigueur, qui était également la tête pensante de la soirée, répartit les deux hackers et le reste de l'équipe au sein d'un réseau tactique. Au centre de leur vue commune, apparut le décompte des nombres qui grossirent un à un avant de s'estomper. 3, 2, 1, go ! D'un mouvement du poignet, l'elfe envoya deux marques rouges qui ressemblaient à des rubans en caoutchouc, sur lesquels était écrit « Approuvé » sur le serveur, puis s'y infiltra. Une fois à l'intérieur, il ne put retenir une exclamation de surprise. Son personnage, comme tout le reste, flottait. L'enfoiré qui avait conçu ce serveur avait utilisé un thème sous-marin. Il commença à scruter les alentours d'un regard noir et prit une grande inspiration tout en essayant de calmer les élans de panique qui l'assaillaient. Les profonds sillons qui défiguraient son visage se creusèrent davantage et il passa, d'exaspération, sa main dans ses cheveux blonds. À ses côtés, un jeune humain s'infiltra lui aussi dans le serveur, puis lui fit un signe de tête. Il était revêtu d'une combinaison de plongée sous-marine qui le recouvrait des pieds à la tête, formant une masse compacte de ses cheveux roux foncés. Son visage était en partie dissimulé par un tuba et un détendeur.
« Hé, mets ta combinaison avant que quelqu'un te remarque !»
dit-il à l'elfe. L'elfe obtempéra. « Très bien » répondit-il. L'icône d'une tenue de plongée se matérialisa devant lui et l'entoura comme si elle avait été touchée par une main invisible.
« Désolé !»
grommela-t-il. « Sous l'eau » pensa-t-il. « Pourquoi est-ce qu'il a choisi sous l'eau ?» L'eau, où sa représentation numérique remplissait tout. Des bancs de poissons colorés frôlaient des drones sous-marins à toute vitesse. Des groupes de nageurs ondoyaient tranquillement, tandis qu'un groupe d'hommes poissons passait sous une arche de corail sur laquelle était écrit « Cathédrale de l'Archange », avec des anémones fleuries, tout en devisant gaiement. La lumière et la musique qui passaient à travers cette arche confirmaient que la cathédrale était le lieu de prédilection et l'endroit où il fallait être vu. Une fois le vacarme laissé derrière soi, on débouchait sur une zone dont le sol marin était recouvert de larges disques de corail beige, à l'intimité garantie par des feuilles de varech géantes qui les dissimulaient à la vue d'autrui.
« Allez, viens !»
enchaîna l'elfe.
« Il faut qu'on trouve les caméras. »
Les deux nagèrent un peu plus loin dans les eaux vertes. Le plus jeune commença.
« Tu sais, j'aime pas dire ça, mais alors ne dis rien !»
coupa l'elfe.
« Tu t'appelles Kid, mais ce n'est pas une raison pour te comporter comme un gamin. Ce que j'allais dire ?»
reprit Kid, sans rien laisser paraître.
C'est que ça a l'air quand même vachement simple. On place l'équipe en sécurité IRL, caméra, serrure, alarme. L'équipe entre dans le serveur et y place un dérivateur, on saute dedans, on chope les données et on se barre tous très vite ensuite. D'accord, on parle quand même de la propriété d'une corporation double A, l'air de rien. Mais ça semble d'une simplicité enfantine.
L'elfe lui jeta un regard renfrogné et fit appel à son programme agent. Il se matérialisa sous la forme d'une copie conforme du Decker, mais plus mince, à l'apparence quasi squelettique, avec sa combinaison ajustée, ses lunettes noires et son trench coat, concentré qu'il était sur toutes les données environnantes.
« Que puis-je faire pour vous, Lurker ?»
demanda l'agent Birdwatcher. L'elfe fit une grimace lorsqu'il entendit son nom.
« Hé, mais j'ai déjà entendu parler de toi !»
interrompit Kid.
« Tiens-moi informé des communications de sécurité entrantes et sortantes !»
poursuivit Lurker.
« Préviens-moi si tu vois le moindre truc bizarre !»
L'agent acquiesça rapidement puis disparut. Lurker jeta un coup d'œil à Kid.
« Ce n'est pas par soi. » C'est le problème avec les noms. Les gens s'en souviennent.
Il remarqua un sous-marin en approche et fit un signe.
Allons-y. Je ne vois pas où est le souci avec ceux qui se souviennent de votre nom.
Renchérit Kid dans une grimace. Leur cœur secoua la tête.
T'es bien plus en sécurité quand personne ne peut te trouver. Comme bon te semble,
répondit Kid.
Mais je pense que c'est encore mieux s'ils savent à qui s'attendre. Cela fait réfléchir à deux fois avant de vous chercher des noises.
Ils nagèrent en direction du sous-marin et leur cœur vérifia son équipement. L'indicateur de pression de sa combinaison indiquait que leur score de surveillance ne cessait d'augmenter. Si l'aiguille passait dans le rouge, le département d'investigation de l'électronique ubiquitaire, ou Dieu, serait sans merci et les éjecterait de la matrice. Les forces de l'ordre mettraient la main sur leur corps, encore sous le contre-coup d'une éjection matricielle quelques minutes plus tard. La montre à son bras indiquait l'heure IRL. C'était en effet un job facile, même s'il était stressant. C'est à partir du sous-marin qu'ils pourraient contrôler portes et caméras. C'était donc leur première cible. Ils repérèrent une CI de patrouille qui avait pris l'apparence hideuse d'un poisson pêcheur, avec sa mâchoire inférieure disproportionnée, ses épines et ses longues dents. La nageoire plantée au niveau du nez émettait d'ordinaire une lueur bioluminescente. Elle était ici remplacée par un projecteur dont le faisceau oscillait d'avant en arrière. Le poisson passa à côté d'eux, se désintéressant de deux personnages en train de renaître en silence. Les hommes montèrent à bord du sous-marin. Ils s'assirent dans les sièges de la console de contrôle. Leur cœur coupa la transmission des caméras IRL. Kid passa la main devant un panneau de contrôle et la carte du complexe apparut devant ses yeux. Elle comportait plusieurs icônes indiquant la position des membres de l'équipe, l'endroit où se trouvaient les caméras, les portes verrouillées et le trajet supposé des patrouilles de sécurité. Leur cœur posa la main sur la carte et la tira vers lui. Elle se détacha. Il la lança en l'air devant lui et la carte se figea dans l'espace, bien visible des deux hommes. Rooster, le spécialiste des opérations clandestines de l'équipe, était en place. Son icône progressait le long du couloir. Kid posa son doigt sur un écran de contrôle et effectua un mouvement rotatif. L'image se mit à tournoyer en une mini-tornade, s'accrochant à son doigt alors qu'il reculait sa main. L'image s'étira de quelques centimètres avant de céder et retourna d'un seul coup dans l'écran. Il venait de créer une boucle vidéo d'un couloir vide longue de 2 minutes. Rooster put guider l'équipe sans se faire voir ni être enregistré. Leur cœur tourna une clé d'un quart de tour vers la droite et le maglock de la porte juste en face de l'équipe passa au vert.
« Ne bougez pas !»
envoya leur cœur par le réseau. Un garde était apparu sur la caméra surveillant l'autre côté de la porte. Il jeta un coup d'œil circulaire avant de quitter la pièce.
« Allez-y !»
poursuivit leur cœur. La botte du dernier runner venait de disparaître dans la pièce et la porte venait juste de se refermer avec un « chut » lorsqu'un gardien surgit du coin du couloir et s'avança dans la salle. Kid fit un claquement de doigts devant l'écran et l'enregistrement recommença immédiatement. Ils observèrent le garde qui effectuait son petit tour. Pendant plusieurs minutes, ils jouèrent à saute-mouton avec des caméras mobiles, déverrouillèrent des portes et placèrent les alarmes automatiques en mode silence, alors que l'équipe continuait de s'enfoncer dans le complexe. Le fait d'être deux à manipuler la matrice rendait le travail bien plus facile.
« Ça devient un petit peu chaud »,
indiqua leur cœur, montrant à Kid le score de surveillance indiqué par le cadran de leur combinaison.
« Je couvre nos traces »,
répondit Kid. Il fixa la jauge pendant quelques instants, puis l'aiguille commença à reculer, diminuant la pression qui pesait sur leurs épaules.
« Bon travail »,
enchaîna l'elfe. L'équipe approchait de deux lourdes portes.
« C'est la dernière »,
murmura-t-il. Trois tampons d'approbation et la serrure était devenue sienne. Une lumière verte indiqua que la serrure était ouverte. L'équipe disparut dans la salle du serveur. Il n'y avait plus grand-chose à faire si ce n'est d'attendre que l'équipe installe le dérivateur de lignes de données dessus. Ils sortirent du sous-marin et se cachèrent dans un banc de coraux. Un personnage revêtu d'une tenue de plongée s'avança dans leur direction.
« Spider !»
murmura leur cœur en désignant le personnage. Le personnage alluma une lampe de poche et plusieurs poissons-pêcheurs se joignirent à lui pour scanner le sous-marin. Des raies de lumière passèrent à travers les hublots et balayèrent l'eau, au-delà du banc de corail dans lequel ils étaient assis, immobiles. Au bout de quelques instants, la lampe de poche s'éteignit et le Spider repartit vers l'obscurité. Les poissons-pêcheurs se dispersèrent. Leur cœur poussa un soupir de soulagement. Il balaya la zone du regard et remarqua quelque chose de nouveau. Une large faille était apparue sur le fond marin. S'en dégageait un épais nuage de bulles, ce qui déclencha chez lui une hyperventilation immédiate. Il profita de la distraction pour se calmer.
« Reprends-toi !»
Des morceaux de masse s'échappèrent de la faille, suivis de près par les restes de la coque d'un énorme man-o-war du XVIIIe siècle. L'épave n'aurait jamais dû rester en un seul morceau vu les dommages qu'elle avait subis. Mais elle était pourtant là, apparaissant petit à petit devant eux.
« Voilà l'archive. C'est avec ça qu'on va gagner notre pognon !»
dit Kid. Ils nagèrent tous deux vers l'épave. De fins rayons de lumière granuleuse s'échappaient des nombreux trous présents dans la structure, ce qui éclairait faiblement l'ensemble, mais lorsqu'ils trouvèrent ce qu'ils étaient venus chercher, cela se mit à briller comme éclairé par un spot. Un coffre en bois fermé avec du métal brillant se mit à luire au pied d'une courte échelle située en plein milieu du vaisseau. Leur cœur sortit plusieurs longues pinces d'un tissu accroché à sa ceinture et s'attaqua immédiatement à la serrure. L'agent Birdwatcher se matérialisa.
« Tater indique que la sécurité est au courant de notre présence »,
déclara-t-il.
« Merde !»
poursuivit leur cœur. Le coffre s'ouvrit, révélant un épais fichier fermé par une large serrure. Ils entendirent un « étouffé », se retournèrent et se retrouvèrent face à une créature dont la partie antérieure du corps ainsi que la tête était léonin et sa partie postérieure celle d'un poisson, qui subissait le recul d'un tromblon approximativement aussi imposant qu'elle. Un bolas composé d'encre et de chêne frôla la tête de leur cœur qui dut s'accroupir pour se protéger.
« Décifre-moi ce fichier !»
ordonna leur cœur à l'agent Birdwatcher. Dans le même temps, ses bras s'étaient mis à faire de grands moulinets vers le lion de mer. Des boulets de canon catapultés de nulle part foncèrent vers la créature. L'un d'entre eux la toucha au niveau de la queue, mais sans faire le moindre dommage apparent.
« Stop-le, Spike !»
cria Kid, et un chien en plein bond se matérialisa au creux d'une vague en plein milieu de sa main. Le Beagle, qui avait la mâchoire anormalement large, plongea vers le lion de mer et le mordit à pleines dents au flanc. La créature fit à nouveau feu, ratant leur cœur de justesse. L'elfe bondit vers le haut avec un grognement et dégaina une épée courte qui brillait de la lueur bleue caractéristique du code binaire. Leur cœur plongea et son épée s'enfonça dans le dos de la créature. Elle explosa dans un torrent de données qui se dispersa dans les eaux environnantes. Un tentacule de chair enserra l'agent Birdwatcher par le cou. Leur cœur poussa un juron avant d'éteindre précipitamment le programme de l'agent. Normalement, il ne se fait jamais repérer et n'a donc pas besoin de se protéger des différentes contre-mesures. Il n'a jamais à défendre son deck sur deux fronts simultanément. Birdwatcher disparut dans le néant et leur cœur repéra, puis se débarrassa des marques laissées par l'attaquant. Kid fit un mouvement circulaire de la main en direction de la créature qui approchait, un humanoïde vert sombre, aux yeux noirs et dont le nez et la bouche étaient remplacés par des tentacules. Il se tordit comme une éponge qu'on essore. Lorsqu'il revint à la normale, son corps jusque-là musclé s'affaissa, émacié sous les effets de la résonance du technomancien. Leur cœur se précipita alors sur la serrure du fichier. Mais un tentacule s'entoura autour de sa jambe, le projetant en arrière. Il examina sa combinaison avec attention et repéra deux marques de traçage.
« Merde !»
jura-t-il avant de s'en débarrasser. Kid joignit ses deux mains, qui formèrent une sphère, et Spike vint s'enterrer à ses pieds. Des fils bleus s'assemblèrent, formant une boule, grossissant et épaississant au fur et à mesure que d'autres fils s'y mélangèrent. Kid lança la boule en direction de la créature tentaculaire. Elle vola vers elle, la dépassa, rebondit juste derrière elle en un épais nuage de sable et de débris opaques qui entoura totalement la créature. Du sang coula du nez de Kid. Un autre lion de mer apparut près d'eux, pointant son tromblon vers leur cœur. Avec une détonation étouffée, la chaîne du bolas s'entoura autour de ses jambes. La panique serra la gorge de leur cœur lorsque les ancres le bloquèrent sur le sol marin sablonneux.
« Ce n'est pas la réalité, Frager. Reprends-toi !»
lui hurlait la partie rationnelle de son cerveau. L'autre partie de sa tête avait cependant du mal à le croire. Les yeux grands ouverts, il lança son épée courte vers le lion de mer, mais ce dernier évita facilement l'arme. Spike aboya sauvagement en direction du lion de mer. Chacun de ses aboiements prenait la forme d'une impulsion électrique. Ces impulsions se multiplièrent, frappant le lion de mer et l'enveloppant derrière une barrière opaque. Un requin de 2 mètres de long surgit alors de nulle part et percuta Spike sur le flanc. Le chien explosa dans un flot de données et de pixels. Les impulsions entourant le lion de mer disparurent et ce dernier arma son tromblon en direction de Kid. La créature tentaculaire et le nuage l'entourant disparurent à leur tour. Puis un étrange bourdonnement précéda l'apparition d'un humanoïde très maigre, à la peau vert pâle, à la place de la créature. Il possédait une longue chevelure noire hirsute et de fins doigts palmés. Il observait la scène au travers de ses yeux jaunes et brillants. Il pointa leur cœur du doigt et un fin flot rose s'échappa de son personnage vers l'obscurité.
« Bordel, je suis tracé !»
lança l'elfe. Il s'efforça de parler calmement, même si la pression s'était soudainement accrue. L'ancre le retenant n'avait pourtant pas bougé, mais il avait l'impression de se retrouver à une profondeur bien plus importante que celle où il était.
« Barre-toi d'ici et préviens les autres !»
Il réussit à repérer et à se débarrasser des marques de traçage.
« Je ne peux pas te laisser là !»
répondit Kid, évitant de justesse un autre bolas. Il abattit son long poing sur la serrure qui explosa sous l'impact.
« Obéis ! Prends le fichier et dégage !» « Je ne serai pas loin derrière toi. Merde !»
poursuivit Kid, et son personnage disparut avec le fichier. Le requin-marteau passa comme une balle à l'endroit où se trouvait Kid une seconde plus tôt. Il s'arrêta net et se retourna vers leur cœur. L'elfe se ramassa sur lui-même, et le requin lui passa au-dessus. Leur cœur saisit cette opportunité pour tenter de s'enfuir. L'ancre qui retenait sa jambe ne l'empêchait pas de bouger, mais il ne réussirait pas à se débrancher du serveur s'il ne parvenait pas à briser la chaîne à laquelle il était attaché. Il se planqua dans un banc de varech. Il contrôla où était son groupe. À travers le réseau qu'il avait mis en place, il pouvait voir les images de son équipe en train de se tailler un chemin vers la sortie du complexe, à grands coups de rafales d'armes à feu. Kid surprit, sur ses lunettes, une expression horrifiée du Decker qui avait compris qu'ils étaient faits. La vue de la caméra fit une embardée vers la droite, en direction de la porte du van en train de s'ouvrir, et tomba sur un groupe de personnages vêtus de l'uniforme de la sécurité, leurs armes automatiques pointées vers les caméras, le faisceau d'une lampe torche et les gyrophares d'un camion blindé proche aveuglant tout le monde. Il y eut des coups de feu, puis une lutte, avant que les fenêtres de transmission ne s'éteignent. L'aiguille de son tensiomètre avait basculé dans le rouge. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre.
C'est bien comme ça que tu as survécu aussi longtemps, espèce de lâche.
Sa bouche se tordit en une expression de dégoût et de rage mélangée. La CI avait disparu. Sans aucun doute était-elle en train de le chercher dans les environs. L'ondulation permanente du varech s'interrompit et la plante se figea. Leur cœur eut la sensation que son cœur s'était lui aussi arrêté. Plus rien ne bougeait. Si ce n'est de fines particules de poussière qui dérivaient dans l'eau et qui brillaient lorsqu'elles croisaient les rayons du soleil qui éclairaient le fond de l'océan de taches de lumière. Alors qu'elles se rapprochaient du sol, une partie d'entre elles sembla épouser les contours d'un moule invisible. Elles prirent l'apparence d'une forme humaine qui gagnait rapidement en consistance. Très vite, un homme se tint debout. Il portait un borsalino blanc, une cravate noire fabriquée avec un tissu brillant et une veste croisée flambant neuve. Un morceau de tissu dépassait de sa poche de revers. Malgré le varech, les yeux de l'homme étaient rivés sur leur cœur et sa bouche se fendit d'un large sourire. L'homme se pencha et fixa leur cœur droit dans les yeux. « Tu vas venir avec nous. Et ne t'inquiète pas pour ton corps physique. On l'a emmené dans un endroit sûr. » L'homme coupa la chaîne aussi facilement que si elle avait été faite de papier. Leur cœur fut éjecté de la matrice et réintégra son corps. Quelque chose de très lourd le frappa à la tête et tout devint noir. Le Decker avait du mal à savoir s'il se trouvait encore dans la réalité virtuelle ou s'il était revenu dans le monde réel. Peut-être était-ce dû au fait que certains relents de son rêve étaient trop ancrés dans les données qui tournaient dans son cerveau. Mais quand la lumière frappa ses yeux, la douleur qu'il ressentit dans sa tête lui fournit la réponse. Il avait les mains liées de part et d'autre d'une sorte de lit. L'homme qui se tenait à quelques mètres de lui avait la même apparence propre sur elle que son personnage de Hervé. « Te voilà réveillé, » commença-t-il. « Finissons-en avec ça. » Il resserra sa cravate. « Je crois que tu sais qui nous sommes. » Il attendit quelques secondes. Devant l'absence de réponse de la part de leur cœur, il poursuivit. « Tu te trouves dans une pièce qui est sous la protection de la cour corporatiste. Quant à moi, je travaille pour le département d'investigation de l'électronique ubiquitaire. » L'estomac de leur cœur se souleva. L'univers sembla basculer. « Laisse-moi te dire les choses ouvertement. T'es très bon dans ce que tu fais. Nous sommes aussi très bons dans ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle tu es encore vivant et non dans un compacteur de déchets. » Un bref sourire apparut sur son visage. Il s'accroupit et passa une main dans la chevelure de l'elfe. « Nos conditions sont simples. Travaille pour nous. » Sa voix se transforma en murmure. « Et on ne t'explosera pas le cerveau. »